L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Francine Méran, psychiatre de profession, artiste de la mémoire, peintre et conférencière auprès des plus jeunes et notamment des scolaires, des conférences, des actions autour de l'exil, des génocides, des discriminations, une façon de lutter contre l'antisémitisme, le racisme, le rejet de l'autre. Pour rappel, votre opération interactive Valise Mémoire, menée avec des collégiens et des lycéens, qui s'est déroulée toute l'année dernière, encore cette année, et aujourd'hui... Elle vient nous parler d'un spectacle qui rentre d'ailleurs dans cette opération Valise Mémoire, qui aura lieu le jeudi 27 février à 19h à la Chapelle de la Rencontre de Strasbourg, nommée « De sang et de lait ». C'est une pièce de Bernadette Bidaude. Le spectacle sera suivi d'une table ronde et l'on pourra retrouver des portraits de juste parmi les nations. Francine Méran, bonjour.
Bonjour.
On a l'habitude de vous recevoir régulièrement, ça c'est lié à votre activité. Vous n'arrêtez jamais. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est une mitzvah, une mission de lutter contre les discriminations, de lutter contre l'antisémitisme, le racisme en général.
Alors c'est une mitzvah, je ne sais pas si c'est une mitzvah, je ne le raisonne pas comme ça. Je pense que c'est important de soutenir les enseignants qui sont engagés. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne qu'avec des enseignants qui eux-mêmes sont engagés. Et je construis des projets denses, pas des interventions uniques. Et je pense que ça fonctionne mieux aussi auprès des élèves, de faire des projets où ils me revoient 6-7 fois dans l'année. Et que c'est une façon de les sensibiliser, autre que juste leur parler de la Shoah en deux cours d'histoire. Quoi.
Alors, la Shoah, l'exil, plus... Le déplacement des populations, c'est quelque chose que vous avez mis en exergue dans ce projet précisément, Valise Mémoire. Alors c'est un projet franco-allemand, c'est important de le dire. Aujourd'hui, il y a les deux côtés de la frontière qui mènent aujourd'hui et qui se rencontrent aussi, c'est important. Alors ce projet, Valise Mémoire, il a donné lieu à des interventions de votre part auprès des élèves qui eux-mêmes sont issus de l'immigration. C'est une façon aussi d'intégrer, de les amener à se poser des questions, eux aujourd'hui, sur leur place, et quelque part de transposer avec ce qui a pu se passer durant la dernière guerre, par exemple.
Alors, c'est important d'essayer de voir par quel biais on peut les sensibiliser à l'histoire de la Shoah, par exemple, ou à l'antisémitisme, mais par quel biais. Il y a une école où j'interviens qui est l'école Oberlin, où le public est quasiment musulman. Et pour moi, la réussite, c'est d'arriver à faire des valises de juifs par des élèves musulmans. Donc, en fait, par exemple, il y aura la valise du professeur Weitz, qui a été fait par un élève. Il y aura des valises de justes musulmans, aussi qui vont être faits par des élèves.
Quel est l'objet que vous mettez dans ces valises
L'idée, c'est que l'élève découvre l'histoire individuelle de quelqu'un, d'une victime. Eux, c'était aussi les justes, c'était pas seulement les victimes, mais globalement, c'est plutôt des victimes. Et de leur faire concevoir une valise qui raconte leur perception de l'histoire de celui qu'ils rencontrent, on va dire. Et donc, c'est pas la valise historique de la personne, c'est leur rencontre avec cette valise. Et de clôturer cette valise avec un aspect créatif, où l'idée, c'est qu'il y a des élèves qui ont vraiment fabriqué des objets valises. L'idée, c'est aussi qu'ils écrivent une lettre personnalisée à la personne dont ils font la valise, pour qu'ils soient eux-mêmes porteurs de la mémoire de cette personne, qui est vraiment un lien très difficile, parce que beaucoup d'élèves se servent de ChatGPT.
Ah.
Et donc, on a l'impression que c'est très bien écrit, il n'y a rien de ressenti. Ça, je viens de le découvrir. Donc, il faut qu'on arrive à contourner ça, parce que l'objectif, c'est vraiment qu'un lien se fasse. Si c'est pour le faire par ChatGPT, il y a échec.
Il y a un petit peu du psychiatre cette opération. Bah
oui,
il faut que ça vienne des tripes.
Il faut qu'eux portent une mémoire. Enfin, comme quand ils ont entendu un témoin, il n'y aura bientôt plus de témoins. Donc, quand on entend un témoin, on se sent un peu dépositaire de la mémoire qu'on a entendue quand il s'est adressé à nous. Là, il n'y aura bientôt plus de témoins. L'idée, c'est comment les raccrocher à une histoire individuelle. Et je pense qu'en lisant l'histoire, en créant quelque chose à partir de cette histoire, et en écrivant une lettre à cette personne-là, j'espère, en tout cas, que ça fasse un peu lien avec un destin individuel.
Comment a été accueillie, justement, l'histoire de la Shoah, des gens disparus à ce moment-là dans des établissements à majorité musulmane.
Je suis un petit peu étonnée quand même, parce que le démarrage était un peu compliqué. Enfin, je n'ai pas trouvé ça très simple. Évidemment, on m'a parlé de Gaza dans les minutes qui ont suivi, ouais. pratiquement. Mais finalement, bon, il faut dire que l'enseignante est musulmane, déjà. Très investie dans la Shoah. Ça fait 20 ans qu'elle fait des projets sur la Shoah. Et au fur et à mesure, j'ai quand même l'impression qu'il y a des élèves qu'on a gagnés. Après, je ne sais pas les suites et je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des élèves qui se sont vraiment étonnamment investis et parfois même des opposants au projet. Celui qui fait la valise du professeur Weitz, c'était totalement cynique par rapport au projet. Alors, je ne sais pas si ce qu'il dit, c'est vrai ou si c'est vraiment ressenti, mais il s'est accroché, il m'a montré, il a fait une affiche, il a prévu une valise. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé.
L'opération a été menée, et puis après, il y a la fierté de présenter ce travail oui. à d'autres établissements.
Ce sera présenté dans l'école. Déjà, eux vont construire une exposition dans le cadre de leur école qui sera adressée à tous les élèves de l'école avec un vernissage. Enfin, ils vont concevoir toute l'exposition. Et après, ce sera exposé le 20 mai à la Chapelle de la Rencontre avec l'exposition de toutes les valises de tous les projets Allemagne et France. Hein.
Alors, le spectacle de sang et de lait, donc c'est le 27 février, donc toujours à la Chapelle de la Rencontre. C'est un lieu, alors il porte bien son nom aussi, c'est un lieu un petit peu proche aussi de la...
C'est un lieu créé pour ça, c'est un lieu qui a été créé pour la rencontre. En fait, l'idée, c'est la rencontre pas franco-allemande, c'est la rencontre entre les cultures. Alors, il s'avère qu'il y a un pasteur français et un pasteur allemand, mais l'idée, c'est la rencontre entre les cultures.
Alors, il y aura une conteuse qui va... porter ce spectacle de sang et de lait. Alors l'histoire, c'est une maternité créée par une jeune Suisse, Elisabeth Heidenbenz, à Elne, près de Perpignan. Alors elle est reconnue aujourd'hui juste parmi les nations. En quelques mots, racontez-nous l'histoire de cette jeune Suisse.
Alors il y a deux choses que je peux raconter. Déjà, comment Bernadette Bidaud est arrivée à ce spectacle, parce que c'est intéressant. Donc elle va en général dans les villages et elle va raconter l'histoire d'un village. Elle écoute les personnes âgées, voire qui ne savent ni lire ni écrire, et elle raconte leur histoire avec leurs souvenirs. Il s'avère qu'elle avait rencontré Monsieur Hébrard, rescapé d'Oradour, et elle faisait un spectacle sur Oradour. À l'occasion de la présentation de ce spectacle, tout le monde lui parlait de cette maternité d'Elne. Ce qui fait que, finalement, le maire, à l'époque, le maire et le responsable culturel lui ont proposé de lui faire visiter les lieux, et elle s'est sentie happée par le lieu. Parce que le lieu était un lieu très particulier. C'est un château, le château de Bourdaloue, qui était là et qui a été racheté par cette Suissesse, qui était une Suissesse qui travaillait dans le social, qui était venue et qui, à l'époque, était partie de Suisse, était allée en Espagne et avait suivi les républicains espagnols, avait fui avec les républicains espagnols, était arrivée là et avait décidé de s'occuper des enfants et des mamans. Et donc, elle avait reçu dans cette maternité des mamans républicaines espagnoles, essentiellement. Et puis après, avec l'arrivée de la guerre, elle a élargi ça à des juifs, à des tziganes, à des communistes qui étaient dans les camps du sud de la France. Et donc elle se proposait de chercher les femmes un ou deux mois avant la naissance des bébés, de les faire accoucher là et de les garder encore un ou deux mois pour que les bébés soient dans des conditions saines, on va dire, et pas les conditions des camps.
Elle a réussi à les extraire
des camps. Elle les extrayait des camps, ouais. Elle les extrayait
des camps. C'était des camps de travail ici en France.
C'est les camps, le camp d'Agde, le camp d'Argelès, c'était les camps où étaient aussi des juifs, mais des tziganes. Il y a eu à peu près 200 bébés juifs qui sont nés. Il y a eu 400 bébés républicains espagnols. Et en fait, dans cette maternité, on parlait toutes les langues, parce qu'il y avait des gens venant de Pologne, il y avait des Espagnols, etc. Et très rapidement, la Gestapo est venue, les Suisses ont dit que le lieu devait être un lieu neutre, qu'elle devait arrêter d'accueillir des Juifs, parce que la Suisse ne voulait pas être mêlée à tout ça. Donc elle a continué quand même. Elle a, à ce moment-là, fait des faux papiers à tous les mamans et les bébés qui sont nés. Et en fait, les enfants portaient, par exemple, des juifs portaient des prénoms espagnols et les tziganes portaient des noms polonais, etc. Elle avait mélangé tout ça. Ce qui fait que les femmes s'entraidaient les unes les autres. Il y a des mamans juives qui allaitaient des enfants tziganes et vice-versa. Donc c'était vraiment un lieu de rencontre interculturelle, on va dire.
Non, même au-delà des liens de sang
exactement.
Et de lait.
Et puis
d'où le titre du spectacle.
Il arrivait d'ailleurs que certains enfants passent là et qu'elle aille les cacher après, qu'ils ne retournent pas dans les camps. Après, elle a aussi sauvé des enfants qui étaient malades dans les camps qu'elle a pris, qui n'étaient pas des femmes enceintes. Elle a vraiment une action incroyable jusqu'à un moment où la Gestapo est venue et a voulu rentrer dans le château et elle a répondu « Hier ist Schweiz ». Donc, elle n'a pas permis qu'il rentre.
Elle a réussi à protéger,
elle a protégé,
les mamans et les bébés.
Et ça, c'est terminé en 44. La Gestapo a pris le château. Et donc, elle est partie. Elle a continué dans un ailleurs, dans un autre lieu. Et puis après la guerre, elle est partie. Elle a été complètement oubliée. Elle a continué à faire des œuvres humanitaires ailleurs. Elle a été complètement oubliée. C'est bien plus tard, je crois, dans les années 2001 ou quelque chose comme ça, qu'elle a eu la médaille des Justes.
Elle a été reconnue juste parmi les Justes, alors à Yad Vashem, mais également par des témoignages. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est chouette aussi, c'est de retrouver des témoins directs de cette époque-là. Et là, dans la table ronde qui va suivre, vous avez retrouvé une sœur d'une personne qui a été cachée dans la maternité pendant 30 mois.
Alors Sylvie Serror, c'est une enseignante d'allemand qui travaille bénévolement ou plus ou moins bénévolement au Mémorial de la Shoah, qui fait des visites guidées en allemand au Mémorial de la Shoah, et dont la sœur, donc elle est née après-guerre, mais sa sœur qui est née pendant la guerre, a été pendant 30 mois dans ce château, dans cette maternité.
En qualité de bébé ou de maman?
Bébé, oui, les 30 premiers mois quasiment. Sa maman était dans le camp de Gurs avec son père, ils se sont connus au camp d'Agde, les parents, ils étaient tous les deux de Vienne, et... quand elle a accouché dans un hôpital, franchement je ne sais plus quel hôpital, Montpellier peut-être, il me semble, dans le sud en tout cas. Et à partir de là, elle s'est rendue compte qu'il y avait trop de risques pour ce bébé et elle a déposé le bébé à la maternité. Je ne suis pas sûre qu'elle y soit restée, la maman. Elle a laissé le bébé là et à tel point que Elisabeth Heidenvens a pensé que les parents étaient morts et a fait tous les papiers pour pouvoir adopter cette petite fille par la suite. Et dans le livre qui a été, et dans le film qui a été fait sur cette maternité, il y a plusieurs fois des photos de cette petite fille qui apparaissent. Et donc, Sylvie Serror va venir raconter cette histoire et surtout rencontrer Bernadette Bidaud, qui a rencontré beaucoup de témoins, mais jamais Sylvie Serror.
Elisabeth Heidenvens, aujourd'hui, elle est juste parmi les nations. Mais elle n'existe pas aujourd'hui en tant qu'héroïne. Pourtant, c'est une héroïne même de film. Elle pourrait, alors là aujourd'hui, on a la chance d'avoir cette pièce. Il y a une conteuse qui va venir raconter cette histoire, mais ça pourrait être l'héroïne d'un film.
Oui, tout à fait. Mais il y a eu un film, mais qui est un film reportage qui a eu lieu avec plein de... Enfin, le film est très émouvant, on le trouve sur Internet, on le trouve sur Amazon ou sur d'autres sites. C'est un film où on voit les enfants qui ont été sauvés dans cette maison, qui sont nés là, qui viennent revoir le château de Bourdaloue, cette maternité, qui n'est plus une maternité, qui a été un lieu de mémoire. Et je crois qu'il y a eu des soucis financiers. Je ne sais pas si c'est encore un lieu de mémoire aujourd'hui, mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était encore un lieu de mémoire avec des photos. Tout était réinstallé sur place. Et on voit beaucoup de gens qui, dans le film, qui racontent « Ah ben là, il y avait mon berceau. » Et là, c'est très, très émouvant, le film.
Aujourd'hui, Francine Méran, vous, ce que vous aimez, on entend, c'est de transmettre cette mémoire aujourd'hui si importante. C'est les petites histoires qui en font la grande histoire. Mais on entend aussi que ce sont les rencontres. Moi, je vous vois, l'œil qui pétille. Ouais. C'est de rencontrer ces gens qui sont profondément humains, qui ont amené quelque chose.
L'idée, c'est vraiment de faire rencontrer des gens humains et pas des gens qui représentent une association, qui a pignon sur rue. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. L'idée, c'est vraiment qu'on rencontre quelqu'un qui raconte sa petite histoire. Et je pense que ça touche plus que de rencontrer quelqu'un qui défend politiquement quelque chose. Là, je pense qu'il y a des cœurs qui sont touchés. Après, il faut qu'il y ait... Alors, c'est un spectacle pour la première fois. Bon, l'entrée est toujours libre et gratuite.
Oui, comme c'est ce que
dans
vous
toutes
annonciez.
Les situations, c'est toujours gratuit.
Il faut s'inscrire.
Mais il faut s'inscrire parce que le problème, c'est que pour la mise en scène, elle demande que ça... que le lieu, la scène ressemble au camp d'Agde. Donc que ce soit un espace carré avec des projecteurs à l'extérieur. Donc ça limite le nombre de places. Alors, dernière manifestation qu'on a eue, on avait presque 100 personnes. Hein. Donc là, on ne peut pas avoir 100 personnes. Là, on va dire 40, peut-être 50, je ne sais pas. Bon, il y en a déjà une trentaine qui sont inscrits. Hein. Donc je veux dire, il faut effectivement se presser pour
là,
s'inscrire.
Là, on entend le message sous-jacent.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut s'inscrire?
Chez moi, il faut mon adresse mail, francine.meran@gmail.com.
On arrive à la fin de cette interview. On n'a pas pu parler également de Sandra Butch qui sera également présente et qui est illustratrice autour d'un travail, une bande dessinée sur Elisabeth Heidenvens et évidemment vos portraits. Je le disais en introduction de cette interview, vous êtes artiste de la mémoire et là, en l'occurrence, on verra les portraits
quelques portraits de Juste
parmi les nations. Francine Méran, merci infiniment d'être passée nous voir,
merci.
Comme toujours, et puis bravo pour vos actions et votre engagement. Et c'est toujours quelque chose de profond, parce que vous le disiez, c'est, pour vous, c'est l'humain avant tout, et c'est ce qui fait qu'on adhère aujourd'hui à ces actions, et bravo, continuez dans les écoles, je crois que c'est plus que jamais nécessaire.
Merci.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.